Nous ouvrons nos Bibles, et j'espère que vous l'avez avec vous, dans la première épître aux Thessaloniciens. C'est cette épître que nous allons étudier, en tout cas, chaque fois que j'aurai la prédication, je vous parlerai d'un texte de cette épître. Ce matin, le chapitre 1er et les 3 premiers versets. Paul, Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens, et qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Esther nous a lu le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres qui nous a raconté l'arrivée et le ministère de l'apôtre Paul à Thessalonique. Thessalonique, c'est une cité importante au 1er siècle. C'est une cité de la Macédoine. Et l'apôtre Paul va très vite quitter ce lieu et depuis une autre ville, depuis la ville de Corinthe, il va écrire aux Thessaloniciens. On dit généralement que cet épître aux Thessaloniciens est le premier écrit de l'apôtre Paul. Cette lettre est semblable dans son introduction à la plupart des lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Elle commence par trois déclarations. La première, c'est le ou les noms des auteurs, c'est le nom des destinataires, et c'est enfin une formule de bénédiction. Alors tout d'abord, nous avons le nom de l'auteur, l'affirmation de celui qui a écrit, Paul. Tout au long de la lettre, nous découvrons qu'il écrit et qu'il écrit parfois à la première personne. Ainsi, au chapitre 3, il nous dit « J'envoyais Timothée ». C'est le « je » qui affirme qu'il est bien l'auteur de ce texte. Mais Paul donne à côté de son nom celui de deux de ses compagnons, Sylvain et Timothée. En fait, Sylvain et Timothée ont collaboré avec lui à l'évangélisation de Thessalonique. Et Sylvain et Timothée ont poursuivi leur ministère aux côtés de l'apôtre Paul. Et quand l'homme Paul écrit, eh bien, il met tout naturellement à côté de son nom le nom de ses deux compagnons, Sylvain et Timothée. Un petit mot sur Sylvain. Alors, Paul lui donne toujours ce nom, mais Luc, quand il écrit le livre des Actes des Apôtres, lui donne un autre nom, il l'appelle Silas. Alors, certainement, un nom un petit peu, une sorte de surnom ou de nom simplifié. Il l'appelle en tout cas, plus familièrement, Silas. Et Sylvain a été aux côtés de l'apôtre Paul depuis ce que l'on appelle la conférence de Jérusalem, que l'on trouve en acte 15. Il a accompagné Paul au long de son deuxième voyage missionnaire et par la suite également. Il a été le principal associé de l'apôtre. Timothée, lui, l'apôtre l'a rencontré au cours d'un voyage missionnaire, vraisemblablement de son premier voyage. Il a vraisemblablement été celui qui l'a amené au pied du Seigneur Jésus, qui l'a amené à la foi, même si Timothée avait une mère et une grand-mère croyantes. Et nous les découvrons donc à ce moment de notre histoire, compagnons de service de Paul. Au chapitre 3 de cet épître aux Thessaloniciens, on découvre que Paul voulait avoir des nouvelles de l'église des Thessaloniciens. Alors, il a dit à son compagnon Timothée, au jeune serviteur, « Va voir ce qui se passe à Thessalonique. » Et nous trouvons ainsi au chapitre 3 et par exemple au verset 6 que Timothée revient et donne des nouvelles de l'église qui se trouve dans cette ville. Il est dit au verset 6 « Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour. » C'était donc les auteurs. Un mot sur les destinataires. Paul, Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Or, les destinataires sont regroupés, désignés par cette expression « l'église des Thessaloniciens ». Or, nous, quand on parle de l'église, on dit l'église de Toulon. Mais lorsque l'apôtre Paul parle, il ne dit pas l'église de Thessalonique, comme nous on dit l'église de Toulon, mais il dit l'église des Thessaloniciens. Et le mot est important pour l'apôtre, pour l'écriture. L'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas dans une ville simplement, mais c'est bien des hommes et des femmes, c'est bien un groupe uni, appelé par Dieu, mis à part par le Seigneur et qui sert Dieu. Et donc, nous, à la suite de l'apôtre Paul, on devrait plutôt dire l'église des Toulonnais ou des gens de la région de Toulon, montrant par là que l'église, c'est bien nous ensemble qui la formons. Il y a une précision donnée dans ce premier verset au sujet de l'église des Thessaloniciens. L'apôtre nous dit « à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ ». L'église de Thessalonique est décrite comme étant en Dieu, comme étant en Jésus-Christ. Cette image, ces mots nous rappellent une image, nous rappellent ces mots du Seigneur Jésus qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». La particularité de ces sarments de Thessalonique, c'est qu'ils sont attachés au cep, qu'ils sont ancrés dans le cep. Et je crois qu'il est important de réaliser ce qui est dit ici, la position de l'Église. Elle est attachée, elle est liée intimement au cep, au Seigneur. Et je trouve que c'est tout beau, cette image qui nous est donnée, cette leçon qui nous est donnée. L'Église des Thessaloniciens, c'est une Église et qui est dans le cep, qui est lié au cep, qui tire sa vie du Dieu vivant et vrai. Alors, le texte nous parle du Père et nous parle du Fils. La position souveraine, la position de Dieu, est en quelque sorte partagée. En effet, aux yeux de l'apôtre Paul, Jésus est aussi bien Dieu que le Père lui-même. Alors il nous dit déjà, l'Église est qui est en Dieu, le Père, pour évoquer qu'elle trouve en Dieu le Père la sécurité, l'amour, la force, la vie dont elle a besoin. Mais aussi l'Église est qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est celui qui sauve. Christ, c'est le Messie, celui qui est envoyé par Dieu, le Père, pour accomplir l'œuvre nécessaire. Mais aussi le Seigneur, pour nous dire que nous avons besoin de plier le genou devant celui qui a tout accompli pour nous. Alors, comme dans toutes les épîtres de Paul, nous avons un souhait, que la grâce et la paix vous soient données. Nous le savons, le mot « grâce » est un mot qui était utilisé couramment. Il a le sens de salutation, de meilleurs vœux. En fait, on fait un peu la même chose encore aujourd'hui quand on se rencontre et puis que on dit à l'autre « salut ». On dit un mot et on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière ce mot, puisque on parle du salut, hein, de sauver, et c'est étonnant. Mais derrière ce mot de l'époque, ce mot qui nous parle de grâce, il y a un mot très très fort qui évoque ce que Dieu a fait. Le mot, le deuxième mot, c'est le mot shalom, c'est le mot paix, c'est un mot qui a le sens de faveur, de prospérité, de bien-être. Et il est intéressant de noter que ce que Paul souhaite à cette Église, c'est la grâce, don de Dieu, le pardon, le salut de Dieu, mais cette paix et cette faveur, ce bien-être qui nous est donné par le Seigneur. Il est intéressant également de noter que constamment dans le Nouveau Testament, les deux mots apparaissent dans ce même ordre. La grâce précède toujours la paix. Il n'y a pas de paix sans la grâce de Dieu, sans l'intervention de Dieu. Voilà donc pour le premier verset, et maintenant quelques mots sur les versets 2 et 3. Dans ces deux versets suivants, Paul exprime sa gratitude et il nous dit pourquoi il est reconnaissant. Or, Sylvain, Timothée, Paul évoquent ensemble ces chrétiens de Thessalonique. Ils évoquent leur conversion, comment ils se sont tournés des idoles vers le Dieu vivant et vrai. Ils évoquent la croissance de cette communauté. Ils évoquent la vigueur de leur témoignage. Et ils sont dans la joie et ils regardent Dieu et ils se réjouissent avec le Seigneur. Ils se réjouissent devant le Seigneur. Alors, dans ces versets, trois faits caractérisent les croyants de Thessalonique. Et je voudrais vous relire le texte où il est dit « Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Trois faits qui caractérise les croyants de Thessalonique, l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance. Je vous propose de réfléchir quelques instants sur les caractéristiques de cette Église, de ces femmes et de ces hommes. Tout d'abord, la première caractéristique, c'est l'œuvre de leur foi. On pourrait traduire le mot autrement. On pourrait parler de l'œuvre qu'est la foi. La foi, pour l'apôtre, n'est pas simplement une croyance. En parlant de la foi, il parle d'une foi active, d'une foi qui se montre, d'une foi qui se démontre par une manière d'être et une manière de vivre. Le verset 9 de ce chapitre mentionne le fait que les Thessaloniciens avaient délaissé leurs idoles pour se tourner vers le Dieu véritable. Dans la ville de Thessalonique, les hommes et les femmes pouvaient voir ce peuple de Dieu et en le regardant, en les entendant, en les voyant vivre, ils découvraient des femmes et des hommes transformés et des hommes et des femmes tout à fait différents. Et le texte nous dit que dans cette ville de Thessalonique, on voyait en regardant ces hommes et ces femmes la foi mise en acte. La foi qui était là, proclamée non seulement par les mots, mais par la vie, par les gestes, par tout ce qui comportait l'existence de ces Thessaloniciens. Et je me suis posé une première question. Est-ce que cette caractéristique est là dans ma vie? Est-ce que ma foi est montrée et démontrée par ce que je suis, par ce que je vis? La deuxième caractéristique de ces chrétiens de Thessalonique, c'est le travail de leur amour. Alors, le texte, n'est-ce pas, nous dit d'une manière très forte qu'ils accomplissaient le travail suscité par l'amour qu'ils portaient au Christ. Ce n'est pas n'importe quel mot que l'apôtre a choisi. Il a choisi pour parler du travail de ces Thessaloniciens d'un mot qui parle de travail pénible, de peine, de fatigue. Et dans certains textes, il est question de labeur au lieu de travail. Il y a donc là une leçon à recevoir. La traduction Tob parle de votre amour et qui se met en peine. De l'amour et qui se met en peine. Alors ce travail consistait à servir le Dieu vivant et vrai au sein de toutes sortes d'oppositions, au sein de toutes sortes de difficultés. Le travail de votre amour. Puis je me suis dit que dans l'Église, nous avons toutes sortes d'images du travail, du labeur, issu de l'amour porté à Jésus-Christ. Je me suis dit que quand on regarde l'Église, si vous regardez le sous-sol, vous vous dites, tiens, il y a un carrelage. Mais c'est quoi? C'est de le travail, de l'amour porté au Seigneur. Vous êtes dans cette salle, je ne sais même pas si vous l'avez découvert, mais elle sent un peu le frais. Il y a eu un coup de peinture donné de partout dans cette salle. Elle est propre, vous l'avez peut-être même pas remarqué, mais c'est quoi? C'est le travail de l'amour porté au Seigneur. Mais je me suis dit aussi que il y a une multitude de gestes et d'actes qui sont faits dans l'Église ou hors de l'Église, des visites, du travail avec les enfants, enfin, une multitude de choses qu'il nous faudrait mettre par écrit pour dire, mais qu'est-ce que c'est là? Le travail engendré par l'amour porté au Seigneur. Paul regarde ces chrétiens de Thessalonique et il parle du travail de leur amour. Mais je voudrais quand même revenir sur cette image parce que notre travail est-il toujours le résultat de cet amour envers le Seigneur? Vous savez, parfois on fait le travail que Dieu nous demande en étant un petit peu comme Jonas, en étant parfois un peu récalcitrant, en étant un peu de mauvaise humeur, en étant peut-être pas avec les attitudes justes, mais quelque part, quand je regarde Jonas, il a quand même fait, et il a fait de belles choses entre les mains du Seigneur. Et j'étais en regardant ce texte à me dire que certainement ce que Dieu attend, c'est que les actes de notre vie soient vraiment les conséquences de l'amour qu'on porte au Seigneur. Alors, le travail de votre amour, c'est peut-être simplement dans le secret être venu la semaine pour donner le petit coup de balai dans ce lieu. C'est peut-être la visite qui a été faite ici ou là, c'est peut-être le geste qui a été fait pour le Seigneur, pour sa gloire. La caractéristique, la deuxième caractéristique de ces chrétiens de Thessalonique, ils travaillent par amour pour le Seigneur. Et je me suis dit, et toi, qu'en est-il de ta vie? La troisième caractéristique dont il est question ici, c'est la fermeté de l'espérance. Alors, leur marche, c'est un combat, c'est une course d'endurance. Et il nous est dit, n'est-ce pas, qu'ils poursuivent avec fermeté ce combat pour le Seigneur. Je voudrais évoquer encore ces trois mots. La foi, l'amour, l'espérance, qui doivent caractériser ma vie, qui doivent caractériser ta vie. Foi, amour et espérance sont mentionnés dans l'Écriture comme les trois traits fondamentaux de l'existence de tous les chrétiens. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens et qui leur dit maintenant, ces trois choses demeurent. Et quelles sont ces trois choses? C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais si vous prenez encore cet épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 8, vous trouvez, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Vous avez noté les trois mots, et qui sont là, foi, amour, espérance. Alors, vous pourriez prendre du temps, regardez l'épître aux Thessaloniciens, mais l'épître aux Colossiens et bien d'autres, et vous vérifierez que l'apôtre Paul revient constamment sur ces trois mots, comme étant les trois choses fondamentales pour toute vie, pour notre vie de chrétien. Ces trois caractéristiques sont liées entre elles. Elles sont indispensables l'une à l'autre, indispensables à notre vie. Il y a sans doute priorité à la foi, et c'est toujours la foi qui est mentionnée en premier. Mais la foi, sans l'amour, n'est rien. La foi, c'est l'action par l'amour, et dans l'Épître aux Galates, il nous est dit, la foi est agissante par l'amour. De même, quand on évoque la foi, le fait de prendre Dieu au mot, nous pourrions dire que les réalités invisibles doivent être sensibles à notre vue intérieure. La foi, sans l'espérance, sans la certitude du cœur, la foi sans l'espérance est vaine. Alors ce qui importe, ce n'est pas la foi en elle-même, mais c'est celui en qui on croit. Ce qui importe, ce n'est pas le service que l'on accomplit, mais c'est la personne que l'on sert. Ce qui importe, c'est d'attendre avec fidélité la personne même du Seigneur Jésus. Trois caractéristiques, foi, amour et espérance. Est-ce que ce sont ces caractéristiques qui sont manifestées dans ta vie et dans ma vie? Ne répondez pas trop vite. Alors, pas étonnant que Paul, que Sylvain et que Timothée se réjouissent parce qu'ils ont regardé l'église de Thessalonique. Et là, ils ont vu ces trois choses.